Alléluia. J'aimerais vous parler de la vie, mais non seulement la vie, mais vivre la vraie vie. Alors quand on dit ça, ben ça sous-entend qu'il y a une vie qui est fausse. Hein, une fois une vie qui est là, qui semblerait être une vraie vie, les choses qui est de la vie qui sont là, mais finalement ce n'est pas la vraie vie. Dans la vie, il y a souvent des choix. On est on sera toujours confronté à faire des choix qui vont être toujours suivis de conséquences. Et donc, il y a des conséquences heureuses, et merci Seigneur, hein. Mais il y a des conséquences qui peuvent être fâcheuses, suivies de choix qui ont été bons ou mauvais. Alors, prochaine diapo, il y a des situations, hein, des choses dans notre vie qu'on ne contrôle pas. Par exemple, on ne choisit pas son lieu de naissance. Est-ce que quelqu'un a choisi son lieu de naissance ici? Non. Ah, et non. Hein. Il n'y a personne qui choisit son lieu de naissance. Sinon, peut-être d'autres, certains auraient choisi un autre endroit. On ne choisit pas nos parents. N'est-ce pas, Sylvain, Mathurey? Non, on ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas notre famille. Là, je ne dis pas qu'on aurait choisi d'autres parents. Merci Seigneur pour les parents. On ne choisit pas la couleur de notre peau. On ne choisit pas notre nom ou notre prénom. Peut-être que certains, hein, ils auraient voulu changer également le nom de famille. Des fois, certains, ils sont durs à porter. Hein. Alors, avec les moqueries qui vont, et puis tout ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, peut-être certains voudraient changer de nom ou de prénom. On ne choisit pas la taille ou la grandeur qu'on va faire. Moi, si j'avais eu le choix, j'ai peut-être choisi 10 cm de plus. Mais non, on est bien, je suis bien dans ma peau. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des situations dans nos vies qu'on ne contrôle pas, des choses qu'on ne contrôle pas. Par contre, on peut choisir quelle vie nous voulons avoir. Et ça va dépendre finalement que de nous. Une chose est certaine, c'est que moi j'ai choisi la vraie vie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À un moment donné, avant que le Seigneur puisse se révéler à moi, je pensais que la vie que je menais, c'était la vraie vie. Je me disais, mais en fait, c'est ça la vie, c'est profiter de chaque instant. Et souvent, hein, quand on est dans sa jeunesse, on dit, je profite de la vie. Avec ce semblant de liberté qui est là, mais finalement, on s'aperçoit que derrière ça, il y a quelqu'un qui est là pour essayer de nous attraper afin de nous faire miroiter une certaine vie. Et puis, un jour, quand on ouvre les yeux, on s'aperçoit que tout ce qu'on avait bâti, la vie qu'il avait semblé être solide, mais tout s'écroule. Mauvaise nouvelle. Situation difficile, compliquée. Et donc, en tout cas, on est plusieurs ici, hein, la plupart, on a choisi la vraie vie et on peut le dire, on peut le témoigner et c'est quelque chose de merveilleux. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur, il nous a avertis, il a dit qu'on aurait des tribulations, mais il nous a également exhortés et conseillés de prendre courage, car il a vaincu le monde et ce courage, on en a besoin jour après jour pour confronter certaines situations. Alléluia. Alors, dans ce choix de choisir la vraie vie, il y a les chemins, notamment deux chemins qui s'offrent à nous. Et on le retrouve dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14, ce sont des passages que l'on connaît bien. Hein. Il y a cette exhortation de la part du Seigneur, « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alors ici, c'est le Seigneur qui va donner cette parabole des deux chemins. Et il est en train de dire que finalement, il y a deux chemins dans la vie. Et la particularité de ce premier chemin Et donc, c'est que ce chemin, en fait, il est large. La porte est large et il y a encore ce petit détail, spacieux est le chemin, mais il mène à un endroit. Il mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et on voit des foules nombreuses qui veulent profiter de la vie, qui disent, quand on a un entretien avec eux, ou une discussion, ils disent, mais finalement, la vie que je mène, elle me correspond très bien, je vis la liberté. Et finalement, on s'aperçoit que elle mène à un endroit, cette vie, ce chemin, la porte qui est large, le chemin qui est spacieux, il mène à un endroit, à la perdition. Et souvent, on entend, on verra, une fois qu'on se retrouvera devant le Seigneur, s'il est là, s'il existe, on ne sait pas, c'est quelque chose de vague. La Bible nous dit que ces choses-là vont arriver, on va tous se retrouver devant le Seigneur. Et donc, ce que Dieu veut, sa volonté profonde, c'est que tous parviennent donc à la vie, que tous découvrent la vie. Et le Seigneur, il propose, jour après jour, cette vie. Il veut donc que nous puissions rentrer dans ce chemin. Donc, il veut que nous puissions rentrer dans ce chemin. Alors, le chemin de la perdition, on le voit, donc le chemin, donc deux chemins, le chemin de la perdition, tout, au début, c'est hyper séduisant. Parce qu'on se dit, il est large, il n'y a aucune difficulté, on s'y engage, et puis tout roule. Hein. Et il semblerait que tout va de l'avant, toujours c'est attirant, c'est les plaisirs, c'est la liberté. Hein. Par exemple, je vous donne quelques mots de mon témoignage, ma vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'étais fait baptiser. Alors je m'étais fait baptiser, mais, alors moi j'appelle ça comme ça, hein, c'est par conviction. J'étais pleinement convaincu depuis ma plus tendre enfance. Donc, mes parents m'avaient enseigné sur Jésus. Donc, j'étais à l'église, à l'école du dimanche, donc les ados, les pré-ados. Et puis, en fait, à un moment donné, on était ensemble avec Henriette, les enfants, deux enfants qui étaient là. Et puis, il y avait comme un sentiment de bonheur. Moi, je me souviens m'être posé cette question. Qu'est-ce qui me manque là? Et là, je me suis dit, ce qui me manque, c'est de me faire baptiser. Alors, ça partait d'un bon sentiment, hein, mais se faire baptiser pour se faire baptiser, alors on comprend très bien, hein, ça ne sert strictement à rien. Et donc, à un moment donné, donc ça a duré quelques temps comme ça, et puis j'ai décidé, évidemment ça ne tient pas, hein, donc j'avais décidé de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je me souviens, le jour, l'endroit, l'heure, précise où je m'étais dit, à partir d'aujourd'hui, ça n'est terminé avec les choses de Dieu. Maintenant, je veux, c'est comme ça que je l'avais dit, hein, je veux m'éclater dans ce monde, je veux vivre donc cette liberté, parce que j'avais la sensation que je venais donc à l'église, mais que je manquais de liberté. Alors au début, c'était attrayant, c'était attirant, et je pouvais dire, ah, ça c'est la liberté. Et il semblait que je vivais une certaine liberté. On sait que derrière, au tournant, on va le voir tout à l'heure, hein, il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a quelqu'un qui veut, qui nous veut du mal. Quelqu'un qui veut, on va le voir ensemble, donc voler, détruire, égorger. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Pour se retrouver quelques années plus tard avec Henriette ou notre couple, c'était vraiment la catastrophe. Et puis le Seigneur, à un moment donné, de façon extraordinaire, il est intervenu. En me proposant, alors je fais court, hein, mais en me proposant finalement, est-ce que tu veux goûter à la vraie vie? Ah, j'ai pas eu la folie de refuser, hein. J'ai accepté, j'ai dit Seigneur, ben oui, je veux ta vie, cette vie qui coule d'en haut. Et à partir de ce moment-là, j'ai été complètement transformé. Et là, dans ma vie, c'est comme si des écailles que j'avais portées toute ma vie, là, elles tombaient. Et là, je voyais clair. Et là, je me disais, mais finalement, la vie avec le Seigneur, c'est celle-là la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à certaines choses. J'avais plus envie de certaines choses alors que je vivais dans le milieu de la nuit, les trafics, à droite et à gauche. Et puis, au bout d'un moment, voilà, transformation de cœur. Et c'est là où je vivais pleinement donc cette liberté avec le Seigneur. Alors moi, j'ai pas eu la folie, je l'ai dit, de refuser, mais certains refusent. Certains endurcissent leur cœur en disant, moi, cette vie, je ne veux pas. D'abord, je profite, et puis, à un moment donné, on verra. Quelle folie! C'est de la folie pure et simple. C'est être insensé, c'est être hors de sens, parce que la parole nous dit, on ne sait pas ce que demain, ce qu'il va arriver. Et quand on voit tous ces drames, on s'aperçoit que finalement, certains avaient des objectifs, de l'ambition dans la vie, et puis à un moment donné, un drame, quelque chose qui a bouleversé leur vie. La seule chose qui nous appartient, c'est le temps que nous vivons, là, maintenant. Et c'est un temps propice à goûter à la vraie vie. Et nous qui avons goûté à la vraie vie, la préserver fortement. Alléluia. Donc, dans ce chemin de perdition, il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Et on veut, on prie de tout notre cœur pour qu'on puisse leur indiquer, dire, mais finalement, ce n'est pas la porte large. Le chemin spacieux, c'est la porte resserrée. Donc c'est ce second chemin, c'est le chemin de la vie. Et pour trouver ce chemin de la vie, la Bible nous dit que c'est Jésus qui va dire dans Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il rajoute. Et ça, ce n'est pas un petit détail. C'est une condition divine. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, ça semble restrictif, ça semble peut-être arbitraire, mais en tout cas, c'est la volonté de Dieu ici que l'on retrouve. Personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Alors, on peut en conclure que, finalement, les religions, tous ceux qui se disent être dans la vérité, mais qui n'acceptent pas Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vraie vie, sont en dehors de la volonté de Dieu et ils sont perdus. Quel dommage. Alors nous, notre volonté, c'est de pouvoir prier pour eux, pour qu'ils puissent retrouver ce chemin, qu'ils puissent retrouver cette vie, alléluia, ce chemin de la vie. Alors, c'est pas facile. D'ailleurs, vous êtes au courant, hein. C'est pas facile, la vie avec le Seigneur. Un jour, il y a une sœur qui me disait, la vie avec le Seigneur, c'est facile. Ah, j'ai dit, pas tout à fait, parce qu'en fait, la Bible dit le contraire. Elle dit qu'on aura des tribulations, que ça sera compliqué, mais qu'on doit prendre courage, que le Seigneur sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça c'est notre sécurité. Hein. Et donc, je lui disais, ça nous arrive. Alors, on comprend, hein, on comprend ce que, enfin, moi je comprenais en tout cas ce qu'elle voulait me dire. Elle me disait, mais si on reste attaché au Seigneur, certes, on traverse des difficultés. Hein, elle n'était pas aveugle. Elle disait, mais on traverse certes des difficultés, surtout elle en avait traversé quelques-unes. Mais elle disait, mais finalement, en restant proche du Seigneur, on se laisse guider, conduire par le Seigneur, gloire à Dieu. Donc ce chemin, le chemin de la vie, il est étroit. La porte est étroite, le chemin resserré. Il est resserré, pourquoi ? Pour que déjà, l'orgueil, on ne puisse pas passer avec tout l'orgueil et tout le bagage qu'on peut traîner. Mais on s'aperçoit que ici, donc le chemin resserré, mais il mène à la vie. Et je rajoute, à la vraie vie, celle que l'on désire. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc chaque être humain ici-bas sur terre cherche le chemin, cherche la vraie vie. Et le Seigneur nous propose, jour après jour, cette vie. Et tous les jours, il sauve des personnes. Et tous les jours, des nouvelles personnes découvrent la vraie vie et le vrai sens de la vie. Et ça change tout. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il bouleverse les vies, les cœurs. Il y a quelques semaines, donc, j'avais été invité pour des baptêmes à Toulouse-Ouest. Il y a eu 5 baptêmes. Et je faisais remarquer à Henriette, c'est que sur les 5 baptêmes, il y avait toutes les générations qui étaient représentées. D'un jeune qui était là, qui donnait sa vie au Seigneur, à quelqu'un de moins jeune, une mamie, mais qui décidait de s'engager par les eaux du baptême. Et les témoignages, ils étaient bouleversants, parce qu'en fait, ils avaient tous réalisé et accepté la proposition que Jésus leur faisait. « Veux-tu goûter à la vraie vie ?» Et ils ont accepté, et chacun par un cheminement personnel, mais la finalité est toujours la même. La proposition reste toujours la même, vivre la vraie vie. Amen. Alors quand on dit ça, donc il y a deux chemins, et sur ce chemin de la vie dans lequel nous traversons, alors on va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Dans Jean chapitre 10, voilà, Jean chapitre 10 nous dit qu'il y a un voleur qui est là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ces mots sont forts, quand même. Et Jésus dit, il fait cette déclaration qui est merveilleuse et incroyable. « Mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Donc ici, on voit tout d'abord qu'il y a deux personnes à notre poursuite. La première, c'est le voleur. Le voleur, c'est celui qui va détourner l'attention. Justement, profite de la vie, tu es jeune, on verra plus tard, on remet à plus tard le fait de découvrir cette vie véritable. Alors vous savez, quand le voleur est là, le danger, c'est de se faire voler la vraie vie. On peut se faire voler 10 ans de notre vie. C'est mon exemple. Quelqu'un d'autre pourrait le témoigner aussi, hein. À un moment donné, j'ai refusé le Seigneur et j'ai perdu donc X années de ma vie. Le voleur, il vient pour nous voler des rêves. Il y a des rêves qui sont là dans notre cœur, on veut que ces rêves s'accomplissent, et puis l'ennemi vient pour nous les voler. L'ennemi essaye de voler également notre destinée, ça c'est son rôle. Il essaye de nous voler les possibilités, il essaye de voler les finances. C'est la réalité, hein. Certains perdent tout du jour au lendemain. L'ennemi essaie de voler des études à laquelle tu t'étais engagé. Et puis, par une circonstance ou une autre, tu t'es arrêté. Tu t'es fait voler par donc ce fameux voleur qui est là. Donc, les études. Certains se sont fait voler leur mariage. Je connais beaucoup de personnes qui, là actuellement, et ça c'est la tristesse, un couple que je connais très bien, là ils sont dans les disputes, alors les coups de fil, on essaye, mais quand il n'y a pas cette volonté de bâtir sur du solide, alors le reste, ça s'écroule, hein, et puis on voit ces batailles. Mais le but du voleur, c'est égorger. C'est voler, égorger, et c'est détruire. Quand je disais tout à l'heure que dans ce chemin, donc de la perdition, il semblerait tout d'abord qu'il y ait un sentiment de liberté. Et moi, je me souviens très bien, hein, donc je donne mon exemple, c'est qu'au début, on faisait quelques apéros avec, avec certains, et puis il y avait de la joie qui était là. Et puis, il y avait la cigarette, et puis on passait à autre chose. Et c'était toujours festif. Et je pensais contrôler ma vie. Jusqu'au jour où je me suis souvenu et j'ai voulu me sortir de certaines addictions. Et là, j'étais piégé. Et là, ce fameux voleur, il m'avait attrapé. Et lui, son but, c'était de me détruire. Et on voit également que quand l'ennemi est là dans une vie, les effets dévastateurs de certaines addictions, notamment de l'alcool. En tant que pasteur, quand on fait des visites, souvent, et quand on discute avec les uns et les autres, souvent quand on fait connaissance et que certains me racontent comment ils sont venus à donner leur vie au Seigneur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages dans les églises. Certains disaient, j'avais un père qui était alcoolique, qui battait ma mère, beaucoup. Et donc c'était, dans les foyers, c'était terrible, c'était le drame constamment, la violence. Mais ça, au tout début, quand on commence dans ces addictions, au départ, ça semble être bien. Mais derrière ça, il y a un piège qui se referme sur nous. Et on ne peut plus se défaire des drames familiaux. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est possible de ne plus se faire voler. Alléluia. Il est possible de ne plus se faire voler. Parce qu'on a vu ici qu'il y a un voleur qui est là pour essayer de voler. Même ce que Dieu nous donne, et nous qui avons donné notre vie au Seigneur, on doit être vigilants. Des fois le temps, perte de temps, des fois en futilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité de ne plus nous faire voler. Et la seconde personne qui est en auto-poursuite, au travers de ce verset, c'est le bon berger. Et le bon berger se nomme Jésus. Et ça, c'est vraiment, c'est lui la personne. Jésus veut pour nous la vraie vie. Il nous offre cette vraie vie. Et la vie, j'aimerais vous dire, d'ailleurs vous le savez, on doit profiter de la vie, mais dans le bon sens du terme. Dans celui de trouver la vraie vie. Pourquoi ? Parce que nous n'en avons qu'une. Alors il y a la religion qui nous dit que peut-être on pourra se réincarner en je ne sais pas quoi. Et puis on pourra revenir. Mais ce sont des mensonges. Parce que la vie, on n'en a qu'une et on doit vraiment goûter à cette vraie vie. Alléluia. Amen. Et le but de Jésus, c'est de nous donner, et on le voit ici, la vie, non seulement la vie, la vraie vie, mais la vie en abondance. Une vie qui déborde. La vie que le Seigneur nous donne, elle est extraordinaire. Et puis la question que l'on pourrait se poser, mais qu'est-ce que la vie en abondance ? Et puis qu'est-ce que Jésus donne ? Tout d'abord, j'aimerais dire ce soir, ou répéter, certains pour la plupart vous le savez, Jésus donne d'abord son amour. Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cet amour, l'amour de Dieu, d'ailleurs ici-bas, il n'y a personne qui peut traverser cette vie sans goûter à l'amour. Nous avons tous ce besoin qui est vital, le besoin de se sentir aimé. Et c'est un besoin qui était universel. Alors certains font des grosses bêtises avec cette quête de recherche de l'amour. On s'aperçoit ici que l'amour, il est inconditionnel. Ce n'est pas à cause de notre condition ou de ce qu'on aurait pu faire de bien ou de mal. Il est inconditionnel. Cet amour, il est pour tous. Il est universel. Et le Seigneur, il nous l'offre à nous tous. Amen. Et la chose extraordinaire encore, c'est que cet amour, il est gratuit. Et quand on goûte à cet amour, on se dit, mais finalement, c'est ça la vraie vie. C'est cet amour que je recherchais. Et ma vie est comblée. Et on n'a plus besoin de plein d'autres choses que l'ennemi essaie de nous donner. On est satisfait. Donc, merci Seigneur pour son amour. Et puis, on s'aperçoit également que ce que donne Jésus, il nous donne la paix. Quand on découvre cet amour, ce qui vient assez rapidement, c'est ce sentiment de paix réelle, de paix profonde. D'ailleurs, il va le dire dans la prière, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, le Seigneur, donc juste avant de partir, donc remonter au ciel, il est en train de dire, mais moi, je veux vous laisser ma paix. Et ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est que ce n'est pas la paix de quelqu'un d'autre, c'est la paix de Jésus. Et la paix de Jésus, c'est celui qui était dans la tempête et qui dormait. C'est cette paix-là qu'il nous donne. Alors quand on vient au Seigneur, il va nous donner cette paix, cette tranquillité, cette assurance. Si on est bouleversé, si on est stressé, s'il y a des choses qui viennent nous troubler, c'est parce qu'en fait, on n'est pas dans la paix du Seigneur. Et la première des choses, c'est d'aller dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, ne me retire pas ta paix, j'ai besoin de ta paix. Et dans la tranquillité, le Seigneur, il nous le donne. Finalement, c'est peut-être nous, par des moyens, on ne sait pas lesquels, on peut s'éloigner de cette paix, on peut s'habituer. Il y a des fois, peut-être même, Dieu, du laxisme, mais que le Seigneur nous aide. Parce que le Seigneur, ici, nous dit, je vous laisse ma paix, je vous la donne. Pas besoin de payer. Certains nous disent qu'il nous faut faire des bonnes œuvres pour essayer de gagner quelque chose ou d'hériter quelque chose de la part du Seigneur. Ici, c'est un don. C'est le don gratuit du Seigneur. Je vous donne ma paix. Et il y a cette comparaison. Il va plus loin. Il dit, mais moi, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Parce que le monde, vous l'avez expérimenté, ça aussi. Hein. Il vous donne d'une main et de l'autre, il vous l'enlève. Et des fois, c'est en arrachant même. Donc, je ne vous donne pas comme le monde donne. Il les encourage ici, hein, les disciples. Il dit, mais que votre cœur ne se trouble pas, et ne se trouve point, et ne s'alarme point. Alléluia. Pourtant, on voit une multitude d'alarmes partout dans ce monde. Ce message, c'est un message de vie ou de mort. Ça peut changer, bouleverser une vie si on accepte. Si on donne notre vie au Seigneur. Alors oui, il y a une multitude d'alarmes et de troubles dans les cœurs qui rendent cette paix indispensable. La paix à vivre, c'est merveilleux. Traverser des moments difficiles, je l'ai dit tout à l'heure, hein, même quand on a découvert la vraie vie, il y a des moments difficiles qui sont là. Mais dans les moments difficiles, la paix n'est pas ôtée. Parce qu'on est proche du Seigneur, on a cette assurance. Et des fois, c'est même bouleversant. Hein, donc, on se pose la question, mais à se dire, mais j'aurais de quoi m'inquiéter, mais là, je suis en paix. Je suis dans cette tranquillité que seul le Seigneur peut nous donner. Alléluia. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit ce soir de réaliser que Jésus puisse être troublé. Il ne peut pas être troublé, Seigneur. Et donc, c'est juste pour que nous puissions comprendre qu'il nous donne sa paix, c'est la sienne. Il n'y a pas de trouble. Je vous donne ma paix, c'est la sienne. La paix que Jésus donne, c'est la paix de Dieu. La paix de Jésus, la paix de Dieu. La paix dans toutes les circonstances de notre vie. C'est une paix d'une toute autre qualité. Elle est durable. Elle dure. Elle est stable. Elle n'est pas un coin haut, un combat. Elle est stable. En tout cas, c'est ce que le Seigneur veut nous donner. Elle n'est pas liée aux circonstances de ce monde. Certains, on a vu, hein, vivre la paix, et puis quelque chose venir, arriver, bouleverser, et puis perdre la paix. Je le disais donc tout à l'heure, il faut revenir au Seigneur, parce que la paix du Seigneur, elle ne dépend pas des circonstances. On n'imagine pas Jésus avoir un jour la paix, et puis le lendemain être troublé, ou perdre cette paix. Alors n'oublions pas que tout ce que le Seigneur nous donne, il nous donne sa paix, c'est la sienne. Pas la nôtre, mais la sienne. Ce que Jésus donne également, trois choses essentielles, hein. La dernière, c'est, il y en aurait bien d'autres, c'est la joie. Jésus nous donne sa joie. Alléluia. Tu es en formation cette semaine, mardi, hein, donc toute la journée. Je faisais une formation, c'est une formation de formateur. Puis à un moment donné, il y avait des mises en situation avec peut-être les choses qu'on pensait de nous, comment gérer donc certains entretiens, bon, enfin voilà. Et puis, à un moment donné, la question m'a été posée, qu'est-ce qui me définissait, hein, il y avait voilà, hein, certaines choses. Et moi, je dis que j'étais souvent joyeux, parce que j'avais la joie du Seigneur dans mon cœur. Et alors, il y a des questions qui sont posées pour essayer de déstabiliser, mais coûte que coûte, jusqu'à la fin, je dis, mais moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que Jésus vit en moi, je suis sauvé. Si aujourd'hui, il m'arrivait, je ne sais pas, une tragédie, quelque chose de terrible, une mauvaise nouvelle, ben, j'ai la joie dans mon cœur parce que dès que je vais fermer les yeux ici-bas, je vais passer l'éternité avec mon Seigneur. Et ça m'envahit de joie. Et encore une fois, il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, parce que ici-bas, il y a des moments de joie. Hein. On doit le reconnaître. On vit des moments. Et merci Seigneur. Hein, qu'on vit des moments quand même de joie, des moments où on est heureux. Mais la joie du Seigneur, pas la même. Encore une fois, c'est quelque chose de profond, de réel, et qui va traverser les épreuves. On peut ressentir la joie, même quand les choses sont incertaines. Le Seigneur nous dit, à chaque jour suffit sa peine, vous connaissez. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, on arrive à s'inquiéter quand même. Et quand on s'inquiète, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre notre joie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Juste comme ça. Si vous avez un peu de temps, notez combien de fois il parle de joie ou d'être heureux dans son épître. Et vous allez voir que... Alors, ce qui est paradoxal, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que cet homme qui parle de joie, il n'est pas sur une plage ou sur un hamac avec un chapeau de paille en train de siroter un cocktail. Il est dans une prison, et ce n'est pas les prisons actuelles, c'est les prisons de l'époque. Et lui, il dit, mais réjouissez-vous. Vous souvenez, hein, donc Philippiens 4, 4 je le répète, au cas où on n'entende pas bien, je le répète, réjouissez-vous. La joie du Seigneur, Néhémie, chapitre 8, verset 10, sera votre force. Alléluia. La joie a sa source, où ça? Dans le cœur. Quand le cœur a été changé, bouleversé, et quand il a reçu la joie du Seigneur, alléluia, elle vient dans notre cœur et elle est faite de bien-être, de contentement et d'harmonie. Encore une fois, pas celui qui se voit la face, on a des problèmes, on a des difficultés, mais la joie, elle est quand même loin. Cette joie, la joie de Dieu, c'est un bonheur intense. Mais pour cela, il faut mettre des choses en face, parce que le monde nous propose certaines choses. Il dit, mais cette joie, elle n'a pas de prix. Amen. Alors gardons déjà ces trois choses. La raison pour laquelle nous pouvons avoir cette vie, on la découvre. Cette proposition de vie véritable, on la découvre dans la suite. Donc Jean chapitre 10, le verset 11. Jésus va dire, je suis le bon berger. Tout à l'heure, on a vu que Jésus va dire, mais moi, je suis le berger, et le berger, il donne la vie en abondance. Et la suite, je suis le bon berger, affirmation, pour pas qu'il n'y ait de doute. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et c'est là où on découvre finalement le secret pour avoir la vraie vie, c'est d'accepter que Jésus a payé, a donné la sienne pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça l'évangile. L'évangile que nous avons reçu, alléluia. Donc Jésus est le bon berger, quelle image, donc ici, qui prend soin de la brebis, et le berger, il donne sa vie. C'est le don gratuit de Dieu pour ses brebis, alléluia. Alors la question, elle est celle-ci, veux-tu la recevoir? Peut-être qu'on l'a reçue il y a quelque temps, puis on a laissé certaines choses s'accumuler dans nos vies. On s'est fait voler, on l'a vu tout à l'heure, par cet ennemi, le diable qui est là pour essayer d'enlever ces graines que le Seigneur plante. Ce soir, c'est possible de recevoir tout à nouveau la vie, la vraie vie, celle qui vient d'en haut. Alléluia. Mais pour cela, il faut prendre une décision. Et la décision, c'est aujourd'hui. Si la plupart qu'on est ici, donc on a accepté le Seigneur, on lui a dit, Seigneur, voilà, je veux de cette vraie vie, gardons ce trésor précieusement. Ne nous laissons pas déstabiliser, alléluia. Et peut-être que quelqu'un s'est fait voler sa vie, je le disais. Quelqu'un s'est peut-être fait voler son enfance. Peut-être quelqu'un s'est fait voler son adolescence. Peut-être que quelqu'un s'est fait voler les années précieuses qui ont été perdues. La Bible nous dit que si on accepte le Seigneur dans notre cœur, si on revient tout à nouveau vers lui, il est dit qu'il nous rendra tout ce qu'on a perdu. Tout ce que le voleur nous a volé, il va nous le rendre. Alléluia. Alors, c'est juste, est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut cette vraie vie, cette vie en abondance? Je vais inviter les musiciens à venir. On va prendre un temps dans la liberté. On est entre nous ce soir dans la liberté et on veut vraiment prendre ce temps, répandre nos cœurs et puis en toute chose glorifier notre Seigneur. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour ta parole. Seigneur, cette parole, c'est une parole d'espérance. Une parole qui bouleverse notre cœur. Seigneur, c'est une proposition à goûter à la vraie vie. Seigneur, merci parce que tu sais, toi, nous tous qui sommes là, qui a fait ce pas, qui est en train de vivre cette vie véritable et qui ne la vit pas, qui a peut-être perdu cette vie. Seigneur, je ne crois pas au hasard, je crois que encore, Seigneur, tu parles au cœur. Et ce soir, tu veux te manifester encore puissamment. Nous voulons glorifier ton nom. Et nous voulons encore te dire, Seigneur, merci, parce que la proposition, elle tient toujours. Seigneur, c'était une offre que tu nous proposes encore dans cette soirée. De goûter à cette vie véritable, cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Seigneur, je veux te prier pour celui et celle, peut-être, qui a regardé ailleurs, qui s'est laissé avoir, qui s'est fait voler, Seigneur, cet amour, cette paix, cette joie. Seigneur, qu'il puisse se retrouver, Seigneur mon Dieu, en prenant la décision ce soir de venir à toi, de venir à tes pieds pour glorifier ton nom. Alléluia.